Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. On va parler un peu d'économie de partage. Si vous avez une tondeuse, vous vous dites, tiens, pourquoi acheter une tondeuse si je peux la partager avec mes voisins, sous-entendant que vous entendez bien que vos voisins, bien sûr. Mais c'est tout ça un peu l'économie de partage, l'économie collaborative aussi, on l'appelle un peu comme ça. C'est-à-dire, c'est cette économie qui vise à partager des biens plutôt que de les posséder et à, juste par extension, même à en tirer un certain profit. En louant, par exemple, c'est tout le principe finalement du phénomène Uber, d'Airbnb, mais qui s'élargit aussi à plein d'autres secteurs. Et là, il y a eu une étude qui vient d'être rendue publique parce que on s'intéresse beaucoup à ce phénomène-là. Entre autres, mon invité, Guillaume Lavoie, qui est chargé de cours à l'ENAP, président du groupe de travail sur l'économie collaborative. Merci, Guillaume, d'être là.
Bonjour.
Vous avez travaillé justement avec plusieurs sur le cadre, en fait, de cette nouvelle économie.
Oui, j'ai été mandaté comme président du groupe. On était trois avec deux autres commissaires. En 120 jours, produire un rapport comme ça, là, je pense qu'on a fait un tour de force.
Et les conclusions de votre rapport?
On ne connaît pas assez ça. Il faut s'en occuper. C'est partout. Et ça touche tous les gouvernements. Là. Pas, ça va de la plus petite commission scolaire jusqu'au plus gros des ministères en passant par les villes. Alors, Uber et Airbnb, là, c'est juste les deux gros arbres qui cachent la forêt. Et la conclusion la plus importante, si on ne se dépêche pas de moderniser nos lois et règlements, on va finir avec des grandes compagnies qui vont venir d'ailleurs, qui vont pouvoir s'imposer par leur taille. Mais toutes les petites start-up québécoises qui veulent lever de terre, eux n'auront jamais un terreau assez fertile pour pouvoir le faire. Alors, si on veut que l'économie collaborative soit aussi une économie québécoise, il faut se réveiller.
Mmh. Et aussi le fait, peut-être je rajouterais, qu'on ne peut pas passer à côté maintenant, puis que c'est comme inévitable. Il y a beaucoup de gens aussi qui luttent, qui pensent qu'il faut s'élever contre ça. Je pense que votre rapport dit un peu, c'est là, puis ça va rester, puis ça va être développé. Là.
Ça va rester, pas parce que c'est méchant ou bon. On pourrait dire la même chose de l'économie générale. Est-ce que c'est bon ou c'est méchant? Ouais. Ça dépend de quoi on parle, ça dépend dans quel cadre. Et la doctrine générale, c'est encadrer afin de mieux permettre. C'est-à-dire qu'on veut que quelque chose, pour l'encadrer, il faut le permettre. Pour le permettre, il faut être capable de faire un encadrement. Puis mieux, bien, ça veut dire selon l'intérêt général.
Mm-hmm. Et tu parles des startups québécoises. On a Maxime Villemur avec nous. Il est fondateur de Sharebee, qu'on peut considéré comme le Uber de l'entreposage, c'est ça?
En quelque sorte,
bonjour,
oui.
Maxime. Bonjour, Maxime. Racontez-nous ce que c'est votre... Sharebee.
Oui, avec plaisir. Donc, nous, on est une plateforme de partage de location d'espace d'entreposage, donc entre particuliers et entreprises. Donc, on met en relation d'un côté des particuliers ou des entreprises qui ont de l'espace en trop comme un garage, sous-sol, place de stationnement, avec des gens qui ont des besoins d'entreposage. Donc, les points principaux, pourquoi c'est plus avantageux, c'est principalement au niveau du prix. Donc, on est en mesure de réduire le prix jusqu'à 50% par rapport aux espaces traditionnels. C'est plus près aussi des gens. Puis, on travaille beaucoup sur l'expérience utilisateur. C'est vraiment ça notre but. Puis, on a lancé l'entreprise en août 2016. Puis, depuis ce jour, on a plus de 1000 propriétaires qui partagent 3000 espaces à Montréal, Toronto et Québec. Notre but, c'est vraiment de poursuivre donc la croissance.
En fait, c'est ce qu'on voit ici, c'est vraiment le premier pilier de l'économie collaborative, c'est-à-dire la maximisation. On parle souvent d'économie de faire plus avec moins. L'économie collaborative, c'est pas ça, c'est même mieux, c'est faire plus avec ce qui existe déjà. Alors, je dis toujours, dans une entreprise, dans une maison, dans une école, un collège, faites un audit de qu'est-ce que l'on a, puis ensuite faites un audit de combien, c'est quoi le pourcentage d'utilisation de ça. Combien il y a de stationnements qu'on n'utilise pas 24 heures sur 24? Puis dans le cas de Sharebee, l'entreposage, c'est regarder dans votre entreprise, regarder au club social, regarder dans votre propre maison, il y a combien de pieds cubes vides qui pourraient être utilisés davantage, puis vos coûts fixes, votre hypothèque, vos assurances, l'utilisation que vous faites de ces espaces-là, mais ça ne change pas. Alors, ce qui vient, l'économie collaborative permet d'aller maximiser ce qui existe déjà. Et ça nous permet d'avoir, en fait, la promesse de l'économie collaborative. Puis on s'entend, là, toutes les promesses ne se réalisent pas toujours, mais c'est une économie, une maisonnée, un budget familial plus productif, plus durable et plus entrepreneurial. Puis c'est ça que nous offre l'économie collaborative.
C'est ça, puis c'est dans le même ordre d'idée, en fait, que comment j'ai eu l'idée pour Sherby, c'était, moi, j'ai un garage double, puis je l'utilisais pas à la maison. Donc, je me suis dit comment je pourrais rentabiliser cet espace-là. Puis, donc, à ce moment-là, j'ai eu l'idée, j'avais eu une mauvaise expérience avec l'entrepôt traditionnel. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient ça louer à prix moindre, puis à meilleure proximité. Puis, ça a pas pris 2 semaines que mon garage s'est rempli, puis je fais environ 600$ par mois avec.
Il est toujours loué?
Il est toujours loué. Il est plein. Ma femme pourrait vous le dire, il est plein.
Est-ce que vous en avez d'autres comme ça? C'est ça qui a parti le bal, en fait.
Exactement, c'est ça qui a parti le bal. Puis là, en ce moment, comme je disais, on a plus de 1000 propriétaires sur la plateforme. Ça va du placard à l'entrepreneur, si on veut, qui a plusieurs espaces dans son sous-sol, par exemple. Donc, on est vraiment en train de partir une révolution, là.
Wow. Mais les gens payent combien?
Donc, en moyenne, on parle de 1$ à 1,50$ le pied carré par mois. Puis au niveau du traditionnel, ça peut monter souvent à 3, 4, 5$. Puis à Toronto, ça va à 7, 8, 9$. Puis même, je pourrais vous donner un exemple assez effrayant. À New York, le prix d'un espace d'entreposage est aussi cher que le prix
d'un
appartement au pied carré. Oui.
Mais à Montréal, ça s'en vient pas pire aussi.
Effectivement.
Dans les grands, pour pas les nommer, là, mais les genres d'Epotium et autres,
exactement.
Là, ça devient assez coûteux. Là.
C'est ça.
On voit avec le phénomène des couples qui se font et se défont.
Ouais.
On va le vivre, là. Regardez, il y a presque 50 % des gens qui vont déménager d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, hein, vous savez, le Code civil
50%?
Québécois, ça, c'est très, très, très élevé. Là.
Wow.
Le taux de déménagement est élevé. Là. Et d'ailleurs, le Code civil québécois, c'est si toi, tu déménages pas, va aider quelqu'un. Alors, on va vivre ça pendant la fin de semaine. Bien, là, je viens de le vivre. Là. Un ami déménage en un peu plus petit. Il a besoin de place. Alors, il y a un besoin. Et là, on a 2 choix. En économie traditionnelle, c'est puisqu'on a besoin de plus d'espace, bien, sacrifions plus de pieds carrés pour construire, j'appelle ça, moi, les prisons pour les boîtes de carton le long des autoroutes. C'est tellement beau. Ou encore, mais maximisons ce qui existe déjà, puis des pieds cubes disponibles dans les maisons, dans les sous-sols, dans les garages, il y en a. Et les gens peuvent décider ou pas s'ils veulent les rentabiliser.
Mm-hmm. Effectivement, pour enchérir sur ce que Guillaume dit, il y a 2 phénomènes qui se produisent actuellement dans les centres urbains. Donc, il y a la forte densité, en fait, de personnes qui augmentent à toutes les semaines et il y a le prix d'immobilier qui augmente. Donc, ce qui fait en sorte que le monde, justement, déménage dans plus petit, puis essaie de trouver des moyens pour rentabiliser l'espace qu'il y aurait en trop. Donc, on vient, justement, aider ces gens-là. On a beaucoup de propriétaires sur la plateforme, justement, qui nous remercient, en fait. Ça leur permet d'arrondir leur fin de mois.
Mais je vais parler pour tous ceux qui ont beaucoup réagi au phénomène Airbnb, puis qui continuent de dire, parce que on regarde ça, puis l'économie participative ou collaborative ne plaît pas à tout le monde. Airbnb, Uber ont été décriés, le sont encore. Il y a beaucoup même de... On parlait il y a quelques jours ici à l'émission des condos qui s'organisent, les copropriétaires s'organisent pour empêcher les autres de pouvoir louer leur condo pendant qu'ils ne sont pas là. Puis, il y a plein d'endroits où maintenant au Québec où tu n'as pas le droit de faire du Airbnb. Donc, quelqu'un qui veut louer son garage, puis c'est un peu le même, le même raisonnement. Il risque pas d'y avoir toujours des gens qui vont être réfractaires à ça parce que ça crée du mouvement, ça peut créer des problèmes aussi. Là.
Comme dans toute chose, il peut y avoir des problèmes.
Mais comment tu encadres ça, Guillaume?
Ben, d'abord, c'est drôle à dire, là, mais il y a un seul endroit où c'est parfaitement encadré là, au Canada, c'est à l'arrondissement Rosemont. Il y a un règlement, c'est un jeune conseiller municipal brillant qui était là
ben
à l'époque.
Oui, ça s'appelait Monsieur Lavoie.
C'est ça. Mais ceci étant dit, l'idée d'encadrer afin de mieux permettre, c'est de dire, bon, ben, par exemple...
Mais à Rosemont, donne l'exemple, qu'est-ce que tu as fait
alors,
là-bas?
Alors, à Rosemont, on a dit, bon, ben, si vous êtes en train de faire ça chez vous, on ne va pas associer ça à une activité commerciale parce que ça voudrait dire qu'on changerait le zonage. On ne veut pas que... Vous ne voulez pas que votre voisin devienne zoné commercial puis que dans 5 ans, ça devienne un Dunkin' Donut. Personne ne veut ça. Alors, c'est là où le volume est quelque chose de logique et d'important. On a dit, vous pouvez le faire... Tant que c'est un usage accessoire, c'est-à-dire, la définition, un usage accessoire, c'est ça ne rend pas impraticable l'usage premier. Si 100 % de votre espace dans votre maison, c'est des boîtes de carton, c'est plus une maison, c'est un entrepôt professionnel. C'est pas la même chose. Alors, prendre un morceau du garage, ça ne vient pas changer la nature de la chose.
Mais le va-et-vient qui est décrié, par exemple, par les gens qui ont des voisins qui font du Airbnb, il peut être le même si tu loues une pièce de ton 4,5 ou de ton 5,5 dans ton appart au troisième étage, tu comprends?
Personnellement, je ne peux pas parler pour Airbnb ou Uber, mais de notre côté, la réalité du marché de l'entreposage, c'est qu'il y a plus de 70 % du monde qui ne visitent pas leur espace d'entreposage, qui vont seulement déposer leurs biens et ensuite les reprendre le moment ouais. où ils doivent quitter.
Bon, il y en a beaucoup qui les oublient aussi.
Effectivement.
Des fois, tu te dis, pourquoi je paye ça pendant des années?
Ça peut arriver,
puis,
effectivement.
Puis finalement, tu dis, j'ai pas besoin de ça. On a trop de stock, mais ça, c'est un autre débat.
C'est un autre débat.
Ouais.
mais ça reste du droit privé. Par exemple, chaque communauté de condos, puis c'était vrai avant l'économie collaborative, se donne ses propres règlements. Tu as le droit d'avoir des vélos qui traînent dans le garage ou pas. Tu as le droit d'avoir ça ou pas. Alors,
mais les gens sont pas très permissifs. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont de moins en moins permissifs. Ça, c'est mon observation personnelle. Je sais pas ce que les auditeurs en pensent, mais moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas plus ouvert à ça. Qu'on l'est même peut-être un peu moins.
Les gens vont y trouver leur intérêt, mais la beauté de cette chose-là, c'est que personne n'est obligé, là. Puis moi, par exemple, je pourrais décider que je veux...
En fais-tu, toi, de ça?
Non, j'ai pas la
t'as
place.
T'as pas de garage?
Non.
T'as pas de pièce à louer pour quelque chose, d'accessoires?
Non, il y a deux enfants qui prennent pas mal de place, là.
Ouais.
Peut-être que eux, je pourrais les entreposer. Faudrait que je voie. Il y a des jours, j'y pense.
C'est peut-être un placard qu'on va pouvoir mettre tantôt, là. <C'est ça. rire>
Mais quelqu'un pourrait décider, ben moi, j'ai du pied cube dans mon sous-sol, dans mon garage, etc. Ça me tente pas, là. Juste le garage, ça ferait mon affaire. Puis moi, je veux que ce soit pour... une fois, puis vous revenez des mois plus tard. Je veux pas que ce soit accessible en tout temps. Alors, chacun va fixer ses propres conditions puis son propre prix. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il y a un encadrement législatif correct? Est-ce qu'on... Dans le fond, dans toutes les pratiques, ce qui dérange, c'est ce qui exagère. Comment on fait pour tracer la ligne entre quelque chose qui est correct
mais c'est sûr que ça va mettre au défi, disons-le comme ça, tous ceux qui louent des espaces commerciaux. Je pense que, Maxime, vous devez être conscient que vous entrez dans le jeu là, du commercial, qui est une grosse industrie, hein, au Québec, ailleurs aussi, mais on s'intéresse à ce qui se passe chez nous, où les tarifs, à Montréal, louer du commercial, là, en bas de 17 piastres du pied carré, t'as rien. Puis ça, c'est vraiment pas cher dans Schlag. Sinon, tu vas à l'ouest, tu vas au centre-ville. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a autant d'espaces de bureaux qui sont vides. Parce que les gens n'ont pas les moyens de payer des loyers. En même temps, les municipalités taxent beaucoup les propriétaires aussi de commerce. Donc, ça te fait, tu vois, des factures des fois annuelles de 30-35 000 $ pas pour un grand espace, là, mettons, pour un 1500-2000 pieds carrés. Tu dis, voyons, comment quelqu'un peut payer 30 000 $ de taxes? Faut que t'en vendes si t'as du café. Faut que t'en vendes des cafés. Faut que t'en vendes des biens là, pour au moins juste payer tes taxes. T'as pas payé tes employés. Tu t'es pas fait un peu d'argent toi-même. Donc, vous arrivez dans ce marché-là. Ça va être difficile. En ce moment, le milieu est très rigide. Moi, je le vois. Moi, j'ai une entreprise. Je loue une place d'affaires. Tu peux pas vraiment négocier. Puis là, tu te dis... Puis on te dit, t'as pas le droit de sous-louer. T'as pas le droit de ci. T'as pas le droit... Là, il va y avoir une espèce de guerre commerce versus ce que vous offrez, finalement.
Bien, c'est sûr, pour renchérir sur le travail que Guillaume fait déjà, il y a beaucoup d'éducation à faire, justement. Mais je pense que, justement, l'économie de partage vient remplir cette espèce de place où on ne peut pas s'attendre à ce qu'un endroit soit une utilisation fixe et qu'après, si cette utilisation-là a pu lieu d'être, bien, on fait juste laisser l'espace vacant. Ça a un coût d'opportunité énorme, non seulement pour la personne qui loue ou qui est propriétaire de ça, mais pour la ville en tant que telle, parce que, comme je disais un peu plus tôt, l'espace va devenir une commodité extrêmement rare. Donc, c'est important de la prendre en valeur puis d'essayer de l'optimiser le plus possible.
Il y a quelqu'un qui... Ça marche, votre application chez Airbnb? Il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais ça, ça m'intéresse. J'essaie d'aller voir comment on fait pour...
Oui,
bien,
on a une plateforme web, donc c'est www.sharebee.ca. Aussi simple que ça.
C'est facile. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Dites-moi si vous êtes prêts pour l'économie de partage, l'économie collaborative. Si vous avez des questions, bien sûr, pour essayer de plus comprendre. Si on n'a pas répondu à toutes vos questions, ne vous gênez pas. 514-790-9850. 1-866-790-9850 pour nous joindre sans frais. À tout de suite. Êtes-vous prêt pour l'économie de partage? Gilbert, bonjour.
Bonjour, madame. Vous allez bien?
Oui, on vous écoute.
Moi, c'est pour savoir l'information.
Oui.
Lorsqu'on entrepose des objets,
oui.
Au niveau des assurances, si la personne, comme monsieur là, avec son garage, s'il passe au feu ou il arrive un incendie, un dégât d'eau,
oui.
whatever, qu'est-ce qui arrive avec nos objets? c'est quoi qui arrive au niveau des assurances?
C'est une très bonne question. Très bonne question. Et Maxime Villemur, justement, qui est fondateur de Shareby, a la réponse parce qu'il a prévu ça.
Oui, c'est une très bonne question. En fait, on savait dès le départ quand on a parti la plateforme que c'était un élément qui était important pour les locataires et les locataires sur la plateforme. Donc, on a travaillé très fort depuis le début, en fait, pour s'assurer qu'on puisse offrir justement de la protection pour les deux parties de la plateforme. Puis, j'ai le plaisir d'annoncer que dans quelques jours, on va être en mesure justement d'annoncer un partenariat à ce niveau-là pour donner de la valeur aux propriétaires et aux locataires sur la plateforme.
Donc, en gros, les gens vont être assurés.
Exactement.
C'est ça. Donc, ça répond à votre question, Gilbert. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, ça vous intéresse visiblement, Gilbert,
oui.
La partie. Oui, oui.
Oh oui, ça m'intéresse. Sauf que c'est au niveau des assurances, là, je veux bien te reposer mes choses, mais je veux pas les perdre non plus. Si un incendie ou un dégât d'eau, tu sais.
C'est sûr. Merci. Suzanne, bonjour.
Bonjour. Je trouve très intéressant le concept d'entreposage et tout ce qui est économie collaborative. Mais je trouve aussi intéressant le concept de consommation collaborative. C'est-à-dire que sur une rue, on peut voir 12 maisons qui ont 12 tondeuses, 12 souffleuses. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant aussi si les gens dans les quartiers pouvaient s'organiser pour faire des achats de groupe.
Effectivement.
Et un système de location ou de réservation plutôt que d'acheter chaque petite maison avec son même kit d'entretien.
C'est vrai, tout à fait. Guillaume Lavoie, là-dessus, est-ce que ça existe déjà? Est-ce que ça s'organise?
Suzanne a tout à fait raison. D'ailleurs, consommation collaborative, c'est un des nombreux noms que l'on donne à l'économie collaborative. C'est vraiment de maximiser ce qui existe déjà.
Ouais.
Regardez sur une rue, c'est assez impressionnant, là, le nombre de choses qui sont en double. C'est pas 10 fois répliqué.
C'est incroyable.
Alors, et la beauté de la chose, c'est qu'avant, là, je reviens là, au temps de les communes, là, on disait « partageons tout, c'est tellement mieux ». C'était vrai, sauf que c'est obligé d'avoir une autorité centrale qui décide qui a accès à quoi à ce moment-là.
Et puis qui paye quand, par exemple, la fameuse tondeuse brise?
La réponse à ça, c'est un espèce de capitalisme débridé en disant chacun va avoir ses affaires, mais ça coûte très cher.
Ouais.
Alors, l'économie collaborative, c'est du socialisme de droite ou du capitalisme de gauche. C'est-à-dire, ça va être payant pour moi de mettre en partage les choses que j'ai avec les autres. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne si bien.
Oui, là, ce qu'on a privilégié jusqu'à maintenant, c'est je l'achète, puis tu me loues. Donc, je fais de l'argent, moi. C'est ça, le capitalisme. Pas de gauche, mais capitalisme.
C'est pas grave qu'il y ait de l'argent dans le mélange. L'idée, c'est au total, la personne qui décide de louer plutôt que d'acheter, elle y trouve son compte également.
Mm-hmm.
D'abord, elle sauve de l'espace. Probablement que louer coûte moins cher que de l'acheter. Parce que pensez au nombre de minutes d'utilisation. Le cas classique, c'est une perceuse. Dans sa vie de perceuse, là, celle que les gens ont à la maison, elle va faire du bruit entre 8 et 20 minutes. Ça fait beaucoup, beaucoup de minutes de pas de perceuse.
Ça. C'est sûr.
Alors, au lieu de payer pour de la capacité non utilisée, on dit « je veux payer pour le temps que je l'utilise
».
Et bon, avec les sous que je vais sauver,
je pense à Loutech, là. C'est une compagnie qui te loue des outils, c'est ce qu'ils font. Là.
Absolument, mais là, souvent, mais on est dans des choses...
Ça, c'est une entreprise.
Mais là, on est dans des choses souvent plus costaudes, importantes. Si vous avez besoin d'une personne, vous l'avez besoin tout de suite, peut-être juste pour 3-4 minutes. Hein, le temps de poser le cadre, puis c'est terminé.
Mais l'achat de groupe dont parlait Sian, ça, c'est autre chose, par exemple.
Il peut y avoir soit un achat de groupe, mais là, la propriété est partagée, mm-hmm. ou c'est quelqu'un qui en possède une, qui la met à disposition des autres.
Ça en aussi, échange d'argent.
En échange d'argent ou en échange de plein d'autres choses. Le troc, c'est...
Ou d'autres services.
Exactement.
En échange d'autres services.
Alors, oui, d'ailleurs,
je te passe ma tondeuse, tu me passes ton...
Il y a une plateforme qui est d'économie sociale qui s'appelle l'accorderie, où là, j'échange des habiletés. Je vais te faire ton canage, mais tu vas donner des leçons de mathématiques à ma fille. Alors, tout ça est possible. L'idée, c'est
l'accorderie, ça s'appelle?
L'accorderie.
Okay. S'accorde bien.
Exactement.
Mm-hmm.
Alors, l'idée, c'est comment je fais pour maximiser ou marchandiser ce qui existe déjà. Mes biens ou les actifs, mes habiletés ou mon temps. Alors, c'est là le génie de l'économie.
Et là, comment on taxe ça, ces affaires-là? Parce que les gouvernements vont s'intéresser à votre rapport, monsieur, puis ils vont dire, bien là, ouais, OK, mais là, nous, on veut taxer ça parce que c'est un échange de biens et services. Et quand il y a biens et services, il y a taxes applicables.
Absolument. Et d'ailleurs, et c'est correct que ce soit comme ça, là. Parce qu'à la limite, c'est pas le fun de payer des taxes. Mais si on veut les services, il faut les financer d'une manière ou d'une autre. Alors, en gros... On n'a pas besoin tellement de changer beaucoup le code de taxes. Il faut juste être capable d'être assez brillant pour l'appliquer pour que ça fonctionne. Mais généralement, là, voici la loi générale, l'article 1 de Revenu Québec. tout revenu, là, je parle plutôt de l'impôt sur le revenu, doit être déclaré.
Ouais.
Vos revenus de salarié, comme professeur à l'école.
Puis même quand tu loues ton garage 600$, tu dois le déclarer.
Absolument. Ouais. Même si vous avez fait un deal de coke, vous avez vendu de la drogue, il faut le déclarer. Mm-hmm. Je ne vais pas encourager les gens à vendre de la drogue, mais oubliez jamais qu'Al Capone est allé...
Non, tu n'as pas besoin, le gouvernement le fait.
Mais Al Capone est allé en prison, pas parce qu'il avait vendu puis tué des gens, il est allé en prison parce qu'il n'avait pas déclaré ses revenus.
Ouais.
Alors, que ce soit des revenus, puis c'est là le message, que ce soit des revenus d'économie traditionnelle ou des revenus d'économie collaborative, ils doivent être déclarés.
Mm-hmm.
Et passé un certain montant, ils sont taxés.
On a Pierre-Luc avec nous. Bonjour, Pierre-Luc.
Oui, bonjour.
On vous écoute?
Écoutez, ben moi, c'est plutôt, je trouve un peu, c'est une bonne idée, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs à l'idée. Si on prend l'exemple d'une tondeuse, moi, j'habite dans un quartier qui est pas mal très assis, on peut triper.
Ouais.
On a sa propre tondeuse, mais la réalité, c'est pas tout le monde qui l'utilise de la même manière. Donc, si on avait fait un service de location de tondeuse, moi, je me demande comment que les gens auraient pu utiliser convenablement le bien sans le détruire.
Ouais. Ça, c'est intéressant ce que vous posez comme question, parce qu'il y a toujours ça. Ça, c'est vrai que des fois, tu fais attention à tes affaires, mais si c'est à ton voisin, tu t'en fous un petit peu. Et ça, bon, comment on fait pour... Écoute, justement, je vous parle beaucoup de Paris, là, excusez-moi, mais j'y étais encore en fin de semaine, puis ils viennent de passer une loi pour finalement enlever l'auto-libre, qui est un service de partage d'auto, de location de petites voitures, tout petites, électriques en plus. C'était vraiment intéressant comme système. Mais ils mangeaient leur bas parce que les gens faisaient du vandalisme. Même chose avec leur équivalent de Bixi, là, à Paris, là, leur Vélib. Puis ils ont un autre système de vélo jaune qu'ils mettent n'importe où. Dès que tu montes dessus, il y a un système. Les gens les vandalisent. Fait qu'ils se sont rendus compte que. Parce que ça leur appartient. C'est pas ton vélo. Fait que tu t'en fous. T'sais. Tu le mets n'importe où. Une voiture passe dessus, le scrap. Alors que si c'est à toi, tu vas y faire plus attention. Donc, dans cette économie-là de partage. Tu partages des biens qui ne sont pas à toi propre. Est-ce que tu vas avoir une même attention à t'en occuper? Je ne suis pas sûre de ça.
Oui, parce que et c'est un risque qui revient souvent là, comme inquiétude. D'abord, ce qui fait que...
C'est une bonne question, ce
absolument,
qui pose Pierre-Luc. Là.
Le gros problème, c'est le caractère anonyme de l'utilisateur. Si tout le monde sait que c'est moi qui l'ai utilisé, là, on parle souvent de l'économie collaborative comme l'économie des réputations. Et si je veux continuer à pouvoir... partager avec les autres, il faut que ma réputation soit bonne.
Comme sur Airbnb, par exemple. Donnez-nous un commentaire sur votre loueur ou sur
C'est la même chose chez Uber, chez Lyft. C'est le classique des plateformes collaboratives. Alors, à partir du moment où moi, mon utilisation va être cotée, pensez à un petit village.
Mm-hmm.
Empruntez quelque chose au voisin ou louez-lui, mais remettez-lui brisé. Sur le perron de l'église, tout le monde va le savoir, puis vous allez être exclu de la communauté. C'est la même chose.
Donc, ça va se faire de façon organique, mais quand même aussi plus que ça, encadré par le biais de commentaires.
Le système de revue entre les pairs, c'est quelque chose d'extraordinairement important.
Maxime, justement, là-dessus, comment vous faites
chez
Sherby?
Fait, justement, c'est là où aussi la technologie embarque. Donc, nous, chez Sherby, on a évidemment un système de revue des pairs. Donc, chaque propriétaire, chaque locataire, après une transaction, peut revoir justement comment ça s'est passé de chacun des côtés.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est quelque chose qui reste sur l'annonce ou le profil de l'utilisateur. Mais nous, on va plus loin. En fait, on fait des vérifications aussi d'identité, donc avec le courriel, le numéro de téléphone, les profils sociaux et aussi les cartes de crédit. Donc, on s'assure que la personne est vraiment la personne qui a dit qu'elle est des deux côtés. Comme ça, on augmente la confiance sur la plateforme. Puis, justement, les deux côtés sont plus apaisés là, pour poursuivre avec la transaction.
Mm-hmm. Et au niveau des taxes, vous en payez des taxes chez Sherby? Vous les chargez aux gens? Comment ça marche?
Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? Nous, on charge des taxes sur notre frais de service. Chaque propriétaire doit justement déclarer ses revenus lui-même.
OK. Donc, vous... C'est un peu comme Airbnb, c'est genre, vous laissez le travail à la personne qui loue. Là.
Exactement. Mais nous, on, selon la loi, on doit charger des taxes sur notre frais de service, qui est notre vrai revenu.
Ouais.
Ensuite de ça, le revenu du propriétaire, c'est chacun des propriétaires qui doit faire comme moi, par exemple.
Oui. Ouais. C'est bien ça?
Oui, c'est un système qui marche d'ailleurs partout ailleurs. Ouais. Hein. Demain matin, vous faites un mandat de parler à tous les consultants.
Ben, c'est ta responsabilité de déclarer tes revenus.
Parler à
là.
Tous les travailleurs autonomes.
C'est sûr.
Et si vous ne le faites pas, ben là... En économie collaborative, c'est génial pour le contrôle parce que il n'y a pas d'argent comptant. C'est tout des transactions électroniques.
Ouais,
c'est
ouais. On peut les retracer tellement.
Exactement.
Alors, ouais, moi, ouais. Si j'étais inspecteur Revenu Québec, c'est pas mal plus le fun parce que là, je peux facilement vérifier.
Mais c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font, Maxime? Ben, hein? Qu'est-ce que tu penses? C'est sûr qu'ils font ça, Guillaume.
Et c'est oui. Très bien que ce soit comme
on
ça.
On a un autre Maxime au téléphone qui veut poser une question à Maxime.
Super.
Oui. Oui, bonjour. Max, en fait, j'adore le concept. Puis je me demandais jusqu'à combien on peut faire avec Sherby.
Donc, ça dépend du pied carré que vous avez?
Oui, effectivement. Donc, ça dépend du pied carré disponible. Ça dépend
un garage aussi. Double, c'est combien de pieds carrés?
Donc, moi, j'ai 5 personnes actuellement qui louent mon garage, puis je peux faire jusqu'à 600 $ par mois avec
ouais.
Ça. Oui, wow. Exactement. Donc, ça dépend vraiment de d'où on se situe, par exemple, à Montréal, dans quel secteur, quel type d'espace on offre. Donc, est-ce que c'est un garage justement qui est accessible 24/7 ou sur demande? Donc,
toi, c'est comment?
Moi, c'est sur demande, mais je suis très flexible. Donc, le propriétaire peut décider justement c'est quoi ses termes de visite. Par exemple. Mais comme je disais un peu plus tôt, c'est très rare que quelqu'un va venir à tous les jours là, dans son espace. Ou s'il y a une personne qui a besoin de ça, ben, est capable de trouver l'espace dont il a besoin sur la plateforme.
OK. Maxime, avez-vous d'autres questions?
Non, c'est pas mal tout de mon côté. Juste, c'est Sherby.com parce que j'ai la difficulté à trouver le site.
Non, c'est www.sherby.ca.
OK, parfait. Merci beaucoup. Je regarderai ça.
Sherby.ca, c'est ça. Vérifiez, exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont de la difficulté. Des fois, ça arrive.
Ben, je peux l'appeler, ça va prendre 2 secondes. Sherbee.ca.
C'est ça. Une petite abeille de partage.
Exactement.
C'est d'ailleurs très joli le logo, c'est une espèce d'alvéole.
Merci beaucoup.
Ben, merci beaucoup, Maxime Villemur, fondateur de Sherby. Merci, Guillaume Lavoie. De vous occuper de l'économie collaborative. C'est vraiment fascinant. Hein, Guillaume, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une nouvelle économie. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté.
Ça va transformer l'ensemble de nos rapports. C'est vraiment quelque chose qui va changer l'économie québécoise profondément.
Là. Fait que tu fais quoi avec ton rapport? Tu le donnes au gouvernement?
Moi, j'attends la sortie du film. on est... Il est excellent. J'invite les gens à le lire, ouais. Aller le télécharger.
On peut le télécharger?
Absolument. Je vous donnerai le lien en passant par... moi, je suis attaché au ministère de l'Innovation. C'est là où était le secrétariat du groupe indépendant. Mais je pense qu'on a là 12 recommandations pour nous mettre sur la voie de rattrapage pour que le Québec soit un lieu d'éclosion, de plateforme, puis d'initiative collaborative québécoise.
Merci beaucoup, Guillaume Lavoie, chargé de cours à l'ENAP, président du groupe de travail sur l'économie collaborative, le GITEC. Le lien, donc, c'est quoi? Tu dis, je vais vous donner le lien.
Ah ben là, ce serait trop... Il n'y a pas de lien court, là. Faudra
mais
que
si on fait rapport sur l'économie collaborative, est-ce que ça va popper dans sur Google?
Sûrement. Sans doute. Sinon, écrivez économie collaborative, GITEC, vous allez tomber dessus. Là.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Merci. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois le directeur général de la Société de sauvetage. Je vais vous poser la question. Si quelqu'un était en mauvaise posture dans l'eau, dans un cours d'eau, un lac, est-ce que vous seriez en mesure de l'aider à ne pas se noyer, justement? Êtes-vous capable de sauver quelqu'un? Évidemment, il faut faire attention, il ne faut pas se mettre en danger soi-même. C'est ce que va nous dire notre invité. À tout de suite, tout le monde.